écoutez le studio Kalangou, il vient d'être 17h. Tout de suite, le journal en français. Je suis Rafika Taher au micro. Au sommaire, ce 9 décembre, c'est la journée internationale de lutte contre la corruption. Au Niger, la haute autorité à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées mène des actions de sensibilisation contre la pratique. Plus d'un kilogramme de cocaïne a été saisi par la police d'Arlit lundi dernier dans le ventre d'un trafiquant. Les détails avec le commissaire de police dans ce journal. Dans la partie magazine de cette édition, vous suivrez une coproduction des médias de la Fondation Hirondelle au Sahel sur la lutte contre les violences basées sur le genre au Niger, au Mali et au Burkina Faso. Bonsoir à tous et bienvenue. Ce 9 décembre, c'est la journée internationale de lutte contre la corruption. Au Niger, la haute autorité à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées Halsia a organisé une cérémonie à Niamey pour sensibiliser les populations sur les actions de lutte menées ainsi que les préventions. Cette journée vise à souligner le lien crucial entre la lutte contre la corruption, la paix, la sécurité et le développement, a déclaré Aliou Samna. Aliou Namata, président du réseau parlementaire nigérien de lutte contre la corruption. Il est au micro de Mokhtar Hamadou.
Notre pays rencontre des défis importants en matière de sécurité aujourd'hui. Et la question de lutte contre la corruption sont cruciales parce que la mauvaise utilisation des ressources publiques a un impact important sur notre capacité à lutter contre la sécurité et promouvoir la paix. Mais en même temps, c'est un élément important dans le processus de lutte contre la pauvreté. Quel que soit ce qu'on va investir comme ressources pour faire le développement, si les ressources ne sont pas bien utilisées, on ne va pas pouvoir lutter contre la pauvreté. C'est une journée importante pour conscientiser les Nigériens, mais aussi les dirigeants par rapport à ce que représente ce fléau et la nécessité pour nous de nous unir pour combattre de toutes nos forces la question de corruption au Niger. On peut dire qu'il y a eu énormément d'efforts, mais nous devons davantage soutenir la Halsia en termes de moyens, mais aussi en termes techniques pour pouvoir avancer, pour pouvoir mieux faire.
Les autorités régionales de Difa, à travers un arrêté publié hier, interdisent la circulation des motos tricycles à certaines heures à l'intérieur de la ville et dans les villages environnants. Cela est la conséquence des attaques enregistrées ces derniers temps à Difa. Ainsi, la circulation des tricycles est autorisée de 6h du matin à 20h du soir. Les conducteurs de ces tricycles réagissent par rapport à cet arrêté. Maman Saleh, leur secrétaire général, au micro de Guidi Abdraman.
Nous avons été frustrés quand nous avons appris que les heures de circulation des tricycles est fixée de 6h du matin à 20h. Il y a beaucoup de personnes, c'est seulement la nuit qu'ils peuvent exercer cette activité. S'il est dit qu'à partir de 20h, les tricycles ne doivent plus circuler, quelqu'un qui ferme sa boutique à 22h ou 23h, comment va-t-il rentrer chez lui dans un quartier périphérique? Bien que la limite, c'est à partir de la barrière. Quand vous prenez l'exemple des autres régions, il y a toujours eu un consensus. Nous avons des propositions. Au lieu d'obliger les conducteurs à contourner la barrière, il serait mieux qu'ils passent par la route. Cela permet de savoir avec qui le conducteur est sorti et avec qui il est rentré. Je pense qu'il faut revoir la copie. Il y a aussi le problème d'établissement des documents. Nous demandons que l'autorité nous facilite l'accès pour avoir ces documents.
Un élève du cours moyen CM2 a été tué lundi dernier par un autre élève de 6e. Cela s'est passé à Dosso. Déjà l'année dernière, un autre élève a été tué toujours à Dosso. Madame Adamu Aïcha, directrice de la Médersa Sirimbey, témoigne au micro de Nana Hadiz Hassan.
C'était aux environs de 17h23. J'ai vu la maîtresse du CM2 sortir et crier à l'aide. L'enfant blessé est venu passer devant nous en courant. C'est quand il est tombé que j'ai vu du sang gicler de ses narines, de son cou, de sa bouche. Nous nous sommes précipités pour lui apporter notre aide. Nous avons essayé de stopper le sang avant l'arrivée de son père. Ce dernier l'a mis dans un tricycle et a essayé de le transporter à l'hôpital. Mais il n'a pas pu aller loin. Nous ne les connaissons même pas. C'est après les événements que les autres camarades nous ont montré le coupable des faits. Ils étaient deux à l'attaquer, mais c'est l'un d'entre eux qui a commis les faits. L'autre a pris la fuite. L'enfant était même en salle quand l'un d'entre eux l'a appelé. Je profite donc pour lancer un appel aux autorités pour qu'on puisse être sécurisés. Nous voyons du tout et nous sommes toutes des femmes. Et en plus, il n'y a aucune clôture autour de nous.
Comme annoncé dans les titres, 52 boulettes de cocaïne, soit plus d'un kilogramme dissimulé dans le ventre d'un trafiquant, ont été mises à nu par la police d'Arlit le lundi 6 décembre. Tassiou Ibrahim, commissaire de police d'Arlit, explique comment la saisie a eu lieu. Il est au micro de Ousmane Oumarou.
C'est l'octrice, à travers une de leurs stratégies, qui leur a permis de mettre la main sur une personne. Cette personne n'était pas d'ailleurs seule. Elle était accompagnée d'un de ses parents. Quand ils ont été présentés à l'hôpital pour une éventuelle vérification, il s'est avéré que l'un d'eux, suite à une radio, il a été constaté qu'il portait plusieurs sortes de petits colis dissimulés dans son ventre. Il était évident que ce n'est pas un composant d'aliment. Le médecin a prescrit alors un produit qui a été administré à l'intérieur afin qu'on puisse savoir exactement ce que c'est. Donc, à travers les selles, étape par étape, ces petits colis sont sortis de son ventre. Ils sont au nombre de 52. Quand ces petits colis ont été pesés, nous avons eu le poids d'un kilogramme. C'est de la cocaïne. Il l'a transporté depuis un pays voisin du sud et il a traversé le pays. Sa destination finale n'était pas Arlit.
En bref, l'UNHCR a réalisé pour la ville d'Agadez une extension du réseau d'eau potable. 5000 personnes réfugiées et populations hôtes de la commune vont bénéficier de ce projet selon un communiqué de l'UNHCR publié ce jour. Ce projet, initié par le HCR, est financé à plus de 325 millions de francs CFA et sera exécuté par la société d'exploitation des eaux du Niger, SIN, sur plus de 10 kilomètres. Les maraîchers qui sont au bord du fleuve Niger ne sont pas inquiets ou paniqués à cause de la crue guinéenne de cette période, a indiqué Amadou Ousmane Dibelko, président de la Fédération des coopératives des maraîchers du Niger. Les autorités nationales ont irrigué des digues pour contenir d'éventuels débordements du fleuve. Amadou Ousmane au micro de Omar Hama.
C'est une situation qu'on suit tous les jours avec les services de la météo. Nous recevons tous les matins la situation de la montée du fleuve Niger. De Ayeru à Gayane, le maximum de maraîchers qui sont sur ce fleuve, ce sont les membres de la Fédération des coopératives maraîchères. Elle ne nous fait pas peur. Comme les années dernières, cette année, nous avons une bonne digue de protection. Le président Bazoum lui-même, il a instruit tous les services, les ministères et les services techniques. On a une réelle digue maintenant. On est loin encore de l'orange, à plus forte raison de la situation rouge du fleuve. La mairie, en plus des travaux de confection de cette digue, ils mettent aussi à la disposition des maraîchers des voyages de latérite en cas, parce que c'est les maraîchers qui savent et qui suivent tous les jours la montée de la crue aussi. S'il y a des choses à colmater dans leur jardin, c'est eux qui le font. Plus, bien sûr, la sensibilisation que nous faisons pour les produits de ne pas toucher à la digue.
La première opération de translocation des girafes de Kouré vers la réserve biosphère de Gadebeji a eu lieu en 2018 avec la translocation de 8 individus, dont 5 femelles et 3 mâles. À la fin du mois de novembre 2022, 3 naissances ont été enregistrées. Une deuxième translocation de 4 autres individus a été effectuée récemment. À ce jour, quel est l'effectif des girafes de la réserve de Gadebeji? Réponse du colonel Maliki Alouza, chef de division fond au micro de Gungu Mohamed Dantani.
À date de fin novembre, il y avait 3 misbahs. Mais il y avait malheureusement une 4e misbah qui a occasionné la mort du petit et de sa mère, moins celle qui est morte. Donc ça fait 7 individus qui sont là-bas. 3 misbahs qui sont bien, ça nous amène à 11. Tout dernièrement, il y avait une 5e misbah, ce qui nous amène à 12 individus. Le nombre de girafes jusqu'en début novembre qui était à Gadebeji. Maintenant, on n'a plus de doute, surtout qu'il y a eu la misbah des mâles. Techniquement, on s'est dit qu'on va se retrouver avec beaucoup de mâles pour peu de femelles. Donc, on a décidé d'ajuster et il y a eu une deuxième translocation. L'opération a consisté donc à renforcer le premier groupe qui était là-bas avec 4 femelles subadultes qui ont été transférées au niveau donc de cette réserve de fonds de Gadebeji. Donc, cela va nous amener à quelques 16 individus à l'heure actuelle.
Le violon traditionnel Touareg, appelé communément Inzad, est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis novembre 2013. Le Inzad joue une fonction d'éducation, de communication et renforce les liens entre les communautés Touareg du Mali, d'Algérie et du Niger, explique Ali Salifou, gestionnaire de la vieille ville d'Agadez, au micro de Moussa Mahamane.
Rézol, c'est une musique traditionnelle qui concerne les communautés Touareg des pays donc comme l'Algérie, le Mali et le Niger. Donc c'est une expression qui a été portée par l'Algérie, mais appuyée par le Niger, parce que les Touareg, on les trouve dans ces trois pays-là. Donc c'est pourquoi il y a un centre de recherche anthropologique, préhistorique et archéologique de l'Algérie qui a fait beaucoup de recherches, qui a beaucoup travaillé sur ce cadre-là et appuyé par les experts nigériens et maliens afin de produire un document de qualité qui puisse permettre donc d'inscrire les mzad à cette liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Donc c'est depuis novembre 2013 que l'EMZ a été inscrite parce qu'on a vu que l'EMZ joue un rôle très important. D'abord, une fonction d'éducation et de communication au niveau des communautés Touareg et ça renforce également de consolider les liens entre ces différentes communautés Touareg qui se trouvent au Mali, en Algérie et au Niger.
C'était le gestionnaire de la ville d'Agadez au micro de Moussa Maman. Dans le volet sport de cette édition, les quarts de finale du Mondial au Qatar débutent aujourd'hui avec deux matchs au programme. La Croatie croise le Brésil et les Pays-Bas feront face à l'Argentine. Le dernier représentant de l'Afrique, le Maroc, jouera demain contre le Portugal. Et puis le tirage au sort des éliminatoires de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football Cannes-Côte d'Ivoire 2023 a eu lieu le week-end passé. 48 pays prendront part à la phase de groupe qui va débuter en juin prochain. Le Niger est dans la poule H avec le Mali, la Namibie et la Guinée-Bissau. Du 25 novembre au 10 décembre est commémoré les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre dans le monde et notamment au Niger, au Mali et au Burkina. Une campagne internationale dont l'objectif spécifique est d'éliminer toute forme de violence à l'égard des femmes et des filles. Quelles en sont donc les formes rencontrées et quel impact de ces types de campagnes? La réponse dans cette coproduction des médias de la Fondation Hirondelle au Sahel, Studio Yafa, Studio Kalangou et Studio Tamani. Elle est présentée par Daniel Koulibaly.
Les violences basées sur le genre sont un terme générique qui traduisent tous ces vices subis par un homme ou une femme du fait de son sexe. Ces violences ont de multiples formes, comme nous l'explique Sibiri Paul Ouedraogo, spécialiste en genre et développement humanitaire à Ouagadougou.
C'est vrai que les violences basées sur le genre là, concernent les deux sexes, hein, hommes et femmes, hein, même si les femmes et les filles là sont premières victimes du fait effectivement de leur statut. Hein, la violence là, elle peut être physique, hein, c'est-à-dire qu'on peut frapper, elle peut être verbale, elle peut être psychologique, c'est-à-dire que ça va être marqué par des injures, des calomnies, si on prend également l'excision, si on prend le mariage forcé, le mariage des petites filles, c'est également des formes de violence effectivement basées sur le genre. Donc on peut avoir même des violences conjugales, ça c'est ce qui se passe dans le couple.
Abibou, un nom d'emprunt, victime de violences répétées, a dû fuir son foyer après 7 ans de mariage.
Ses amis sont venus le conseiller de récupérer les enfants, même s'il ne me veut plus comme femme. Il a refusé et a dit que son souhait est que je parte avec les enfants. Pour mettre ses menaces en exécution, il ne me donnait plus l'argent de la popote. Dans la maison, il a démonté notre lit conjugal, rangé tous les meubles, coupé le courant. Il m'a battu une fois alors que je portais une grossesse de 4 mois.
Les enfants victimes de toute forme de mauvais traitements physiques, psychologiques, affectifs ou sexuels en gardent des séquelles selon Alzouma Ibrahim, chargée de programme à l'ONG Femmes et Enfants victimes de violences familiales à Niamey au Niger.
On va faire des enfants traumatisés sur le plan scolaire et ils ne seront pas capables de faire une relation saine avec les membres de la famille, aussi avec les enfants au-delà de la famille. Tout acte que l'enfant va poser, que ce soit dans la famille ou en dehors de la famille, les conséquences vont se répercuter sur la famille. Des enfants, des fois, qui quittent leur famille pour revenir dans la rue.
Plaidoyer, formation, sensibilisation et campagne à l'image des 16 jours d'activisme sont autant de moyens de lutte contre les violences basées sur le genre. Ils commencent à porter fruit, comme en témoignent ces femmes de Bandiagara au Mali.
Avec les sensibilisations et les formations faites, maintenant, les violences sont en train de diminuer, mais pas tellement.
De l'avis des acteurs, la synergie d'action doit être maintenue et conjuguée à des lois adaptées pour un plus grand impact de la lutte contre les violences basées sur le genre.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous écouterez le Tamashek dans une présentation de Ali Tajissir Ahmed.